Chapitre 3. Franks ne parvint pas à soulever l'énorme bloc de pierre qui, en le coinçant contre les vestiges du parapet, lui avait probablement sauvé la vie. La bouche béante au milieu du pont neuf avait aspiré avec voracité le corps de l'homme qui l'avait percuté. Des hurlements et des gémissements montaient dans le silence froid déposé par les traînes d'obscurité. Le tablier du pont craqua et s'abaissa encore de quelques centimètres, provoquant de nouveaux éboulements. La tempe et la joue irritées par l'arête grenue du bloc de pierre, Franks s'efforça de remettre de l'ordre dans ses pensées, de respirer calmement, d'évaluer la douleur à sa jambe et sa hanche gauche. Elle s'était rapidement assourdie. Rien à voir avec la fracture péroné-tibia provoquée 3 ans plus tôt par une chute du haut du mur d'enceinte. Il n'avait rien de cassé. Il lui fallait maintenant sortir du piège avant d'être emporté par une nouvelle secousse. L'espace entre le bloc de pierre et le béton du trottoir sur lequel il était allongé n'était pas très large. 30 centimètres au plus. S'il réussissait à passer la tête, le reste suivrait peut-être. Son corps malingre, ce corps d'enfant attardé qu'il avait toujours détesté, serait en la circonstance son meilleur allié. 1m73, 60 kg les années de vache grasse. Le tout parfaitement glabre, hormis les quelques poils à la pointe de son menton qui n'avaient jamais suffi à faire une barbe. Il avait toujours envié les corps d'athlètes, les rugbymen et autres sportifs qui étalaient leur pilosité et leur forme musculeuse dans les pages des calendriers. Et même le physique imposant, bien qu'un peu gras, de Ludovic Jeanneret. Caricature du bon élève, Franks s'était montré brillant dans les matières intellectuelles et médiocre en éducation physique, malgré un acharnement presque pathétique à prouver le contraire. Il glissa la tête sous le bloc de pierre en s'écorchant les pommettes, se tordant le cou pour placer ses épaules à l'horizontale. Les boutons de sa veste sautèrent, sa chemise se déchira, son ventre, ses hanches et ses fesses frottèrent durement contre les surfaces rugueuses, mais centimètre après centimètre, il parvint à se dégager de sa prison de pierre. Une pénombre indéchiffrable, régulièrement illuminée par les aurores boréales, ensevelissait les constructions en partie affaissées et emplissait le lit asséché de la Seine. Un froid sec avait supplanté la tiédeur de l'aube. Calé contre un pan du parapet, Franks retroussa son pantalon pour inspecter sa jambe. La douleur naissait d'un énorme bleu sous son genou, l'irradiant de la hanche jusqu'au pied. Il palpa précautionneusement l'hématome, puis, rassuré, il rabattit son pantalon, se remit debout en s'appuyant contre le parapet, et d'un pas chancelant, entreprit de franchir le tablier incliné du pont neuf. La dernière secousse avait transformé la ville en un immense champ de ruines. Les explosions des conduites de gaz dominaient régulièrement les ululements des sirènes et les cris. Les lueurs vives et tremblantes d'incendie déchiraient la grisaille poussiéreuse. 3 mètres de hauteur séparaient le quai de l'extrémité surélevée du pont. Franks décida de sauter malgré la douleur à sa jambe, perdit l'équilibre en reprenant contact avec le sol, roula sur lui-même, heurta quelque chose de dur. S'aperçut en se relevant qu'il s'agissait du corps d'une femme, visage bleuâtre, yeux vitreux, les vertèbres cervicales brisées par la bordure du trottoir. Il s'abrita derrière un bus renversé pour éviter d'être percuté par les silhouettes affolées qui s'égaillaient dans toutes les directions, hommes, femmes, enfants, certains encore en robe de chambre ou en pyjama. Surtout ne pas se laisser emporter par les vagues de panique. Gardez la tête froide. Les éclats des vitres brisées crissèrent sous ses pas. Le cataclysme, l'apocalypse de Saint-Jean ou l'arbre sacré des Mayas ne se déroulait pas exactement selon les prévisions de Franks et de certains scientifiques. Mais il avait bel et bien commencé. La Terre s'était peut-être arrêtée de tourner, ou s'était mise à tourner dans l'autre sens, ce qui expliquait le retour de la nuit alors que le jour se levait à peine. Pendant quelques jours, la planète serait privée de la protection de sa ceinture magnétique et soumise à toutes sortes de bombardements, de rayonnements. La disparition de l'eau de la Seine prouvait en tout cas que les plaques tectoniques avaient bougé, que l'écorce s'était craquelée. Des îles et des pans entiers de continents disparaîtraient. D'autres émergeraient. L'activité volcanique connaîtrait une activité intense pendant quelques semaines, voire quelques mois. Les nuages de cendres se densifieraient, mettraient plusieurs années à se disperser. Le soleil cesserait de briller. Un froid glacial régnerait jusqu'au retour des rayons solaires et décimerait la plupart des espèces vivantes. Franks n'avait pas prévu que les événements s'enchaîneraient aussi tôt, aussi rapidement, ni qu'il se retrouverait aussi loin de l'arche du feu de Dieu. Le tremblement de terre ne se limitant sûrement pas à Paris ou à l'Île-de-France, il devrait parcourir à pied la distance qui le séparait des siens. Près de 500 kilomètres, dans un paysage dévasté, obscur et glacé. Il lui fallait d'urgence se procurer des chaussures et des vêtements chauds. Le dragon des mythologies chinoises et son haleine brûlante avaient déserté le ciel. Le vent lui mordait déjà la peau sous sa veste et sa chemise déchirée. Il quitta l'abri relatif du bus et s'aventura dans les rues jonchées de monticules de gravats et de véhicules encastrés. Une femme à terre, coincée sous un amoncellement de poutres, l'appela à l'aide. Il l'ignora. Puis, rattrapé par la culpabilité, revint sur ses pas. Lorsqu'il s'accroupit près d'elle, elle ne se plaignait plus, ne respirait plus. Il crut entrevoir des reproches dans ses yeux grands ouverts. Il frissonna. Il n'avait jamais côtoyé la mort de près. Ses parents, tous les deux décédés d'un accident pendant qu'il voyageait au Mexique, avaient été incinérés avant son retour. Il n'avait pas veillé sa tante Maëlle, déjà inhumée lorsqu'il avait reçu le coup de fil du notaire. Il se releva, encore choqué par le visage figé de la morte. Se remit en chemin, trouva ce qu'il cherchait dans une ruelle tellement étroite que les immeubles en s'effondrant avaient formé 3 mètres au-dessus de sa tête une voûte irrégulière et menaçante. Des mouvements dans l'obscurité attirèrent son attention. Des pillards, garçons et filles, s'étaient rués dans une boutique de téléphonie mobile pour bourrer leurs poches des derniers modèles de portables. Franks eut envie de leur crier que les appareils électroniques ne serviraient plus à grand-chose dans les années à venir. Mais il n'avait pas de temps ni d'énergie à perdre, et il resta focalisé sur ses propres besoins. Il avisa un magasin de vêtements à la façade penchée et à la vitrine fracassée. Il s'y introduisit en se faufilant sous un enchevêtrement de poutrelles métalliques. Après que ses yeux se furent accoutumés à l'obscurité, il fouilla entre les portants étalés, choisit un pantalon de velours, un t-shirt, un polo aux manches longues, des chaussettes, des gants, une écharpe et un bonnet de laine, un pull au motif torsadé de style irlandais, des chaussures montantes épaisses et confortables, un long manteau de cuir fourré. Il se débarrassa de ses anciens vêtements pour enfiler les nouveaux. Il ne trouva rien d'intéressant dans le petit réduit placé à l'arrière de la boutique et qui servait de vestiaire et de bureau. Ni argent, mais l'argent ne servirait pas à grand-chose lui non plus dans la période qui s'annonçait, ni nourriture, ni lampe de poche. Il se fraya un passage hors de la boutique. La terre trembla de nouveau. Une brève secousse, rageuse, pas assez puissante cependant pour faire s'écrouler les bâtiments toujours debout. La ruelle se jetait plus loin dans un boulevard éclairé par un gigantesque incendie. Un homme entièrement nu, épaules et cheveux gris de poussière, errait comme un spectre entre les décombres, insensible à la baisse brutale de la température, indifférent au regard outré des passants. Les ténèbres crachaient des particules grises semblables aux minuscules flocons qui précédaient les tempêtes de neige, poussière et cendres mêlées. Franz se dirigea en boitillant vers ce qui lui sembla être le sud. Si les pôles magnétiques s'étaient déplacés, une boussole ne lui serait d'aucune utilité. Il lui faudrait se fier à d'autres points de repère. Le faisceau en forme de cône d'un hélicoptère balaya furtivement le boulevard parsemé de larges crevasses. Seuls les hélicos pouvaient voler dans un tel chaos. Les avions qui ne s'étaient pas encore posés avant le déclenchement du cataclysme seraient condamnés à tourner jusqu'à épuisement de leur kérosène avant de tenter un atterrissage de fortune. Il entrevit des lumières mouvantes entre les figures mauves, vertes et pourpres qui se succédaient à un rythme soutenu au-dessus de Paris. Une colonne de fumée grise et malodorante montait d'une bouche de métro. Odéon, lut-il sur le panneau jaune et vert plié par-dessus la cage d'escalier. Un peu plus loin, au croisement des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain, deux bandes abritées derrière les gravats et dans les ruines des immeubles environnants échangeaient des coups de feu. Une arme. Oui, bien sûr. Une arme lui serait indispensable dans les jours à venir. Le vernis de civilisation se craquelait à une vitesse étonnante dans les périodes de bouleversement. Les instincts animaux revenaient instantanément au premier plan. La loi du dominant, du chef de meute, remplaçait l'arsenal juridique dont se targuaient les pays dits évolués. Seuls les plus forts ou les plus malins survivraient. Vito Dallaglio, l'un des anciens membres du Feu de Dieu, disait souvent en riant que du cataclysme émergerait une humanité plus forte, mieux adaptée, et qu'il espérait bien faire partie du peuple nouvellement élu. Mais sa famille avait été la première à quitter la communauté, et il avait remballé son accent italien ses rires tonitruants, sa belle gueule et son darwinisme appliqué à l'espèce humaine. Franks traversa un champ de ruines arpenté par quelques silhouettes en quête des membres de leur famille ensevelis sous les décombres. Les masques tragiques flottaient sur le fond d'obscurité. Une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds et coupés courts, s'approcha de lui, pieds nus, vêtue d'une seule couverture posée sur ses épaules.
« Monsieur, monsieur !»
Grelottant de froid et d'inquiétude, elle désigna les décombres d'un geste du bras.
« Mes enfants, ils sont restés là-dessous, vous pouvez m'aider à les retrouver !»
Il ne lui répondit pas. Les scènes de ce genre se multiplieraient dans les temps à venir. Il ne pourrait pas venir en aide à tout le monde. Sa seule chance était d'avancer heure après heure, jour après jour, en direction du feu de Dieu, en se fermant à la compassion, à toute forme d'humanisme. Lui qui, paradoxalement, avait autrefois défendu l'idée que tous les êtres humains étaient les fils indispensables d'une même trame, cette femme inconnue comme les autres. Il se contenta de lui adresser un sourire contrit avant de se remettre en marche. Elle le rattrapa, le dépassa, se planta devant lui, et écartant les pans de la couverture, exhiba un corps svelte totalement épilé.
Vous pourrez faire de moi ce que vous voulez si vous m'aidez à les retrouver.
Une flambée de désir embrasa Franks.
Je ne peux pas, désolé. Trouvez quelqu'un d'autre.
Elle referma sa couverture et le fixa d'un air haineux, avant de s'évanouir dans l'obscurité. Il arriva devant un grand espace dénudé qui était probablement le jardin du Luxembourg. La douleur à sa jambe l'élançait par instant, mais ne le gênait plus. De nombreux Parisiens s'étaient réfugiés au milieu de l'espace vert. Des enfants pleuraient dans les bras de leur mère. Les secousses avaient totalement défiguré la ville lumière. Une énorme faille fendait le jardin de part en part. Comme de la bouche du métro Odéon, des colonnes de fumée claire s'en élevaient. Franks se fraya un passage dans la multitude pour s'approcher de la fracture, d'une largeur d'une trentaine de mètres. Un ruisseau la sillonnait dans le fond, roulant, ondulant, étincelant et rougeoyant comme du métal en fusion. Le vent dispersait une vague odeur de soufre. De la lave. L'écorce terrestre avait subi de profonds bouleversements pour que le magma affleure ainsi à la surface. Franks s'en éloigna rapidement. La terre se secouait comme un chien cherchant à se débarrasser de ses puces. Elle n'en était qu'au début de ses convulsions. Les failles se transformeraient en gouffres. Des montagnes s'élèveraient à la place des plaines. Des régions entières seraient englouties. Les paysages se modifieraient jusqu'à ce que la planète ait retrouvé son équilibre et initié un nouveau cycle de vie. Franks hâta l'allure en direction de Denfert Rochereau et de la Porte d'Orléans. Il avait tracé mentalement son itinéraire en visualisant la carte de France. Orléans, Bourges, Châteauroux, Guéret, Limoges, Brive. Une nouvelle secousse, nettement plus puissante et longue que les deux précédentes, se produisit alors qu'il s'engageait dans l'avenue du général Leclerc. Le macadam se gondola, et de part et d'autre, les constructions encore intactes s'affaissèrent dans un vacarme assourdissant. Arraché du sol, Franks fut emporté sur une bonne cinquantaine de mètres et violemment projeté contre le bas d'un mur. Il resta un moment étendu à demi étourdi sur le trottoir jusqu'à ce qu'il sente un contact chaud et floconneux sur sa pommette et sa joue. Du sang. Son arcade sourcilière avait éclaté. Il jugula l'écoulement avec la paume de sa main, se redressa, avisa un tissu clair, un drap peut-être, qui claquait au vent quelques mètres plus loin, en déchira le bord avec ses dents afin de prélever une bande qu'il enroula grossièrement autour de sa tête et maintint en place en enfonçant son bonnet jusqu'aux sourcils. Un spectacle dantesque se dévoilait autour de lui. Il ne restait pratiquement plus une seule construction debout. Certaines avaient sombré dans les béances de la terre. Le vent n'avait pas dispersé la poussière soulevée par les éboulements, peuplée de silhouettes titubantes. Le grondement d'un hélicoptère lacéra le silence. Franks se remit en chemin malgré son mal de crâne et la douleur réveillée de sa jambe. Les nombreuses craquelures l'obligeaient à faire d'incessants détours. Le sol crissa sous ses pas. Il se rendit compte qu'il foulait des boîtes de céréales, des paquets de café et des sachets de riz. Le contenu d'une épicerie s'était répandu entre les gravats et les morceaux de béton hérissés de structures métalliques. Il s'accroupit, épousseta les emballages, emporta des figues séchées, des barres énergétiques et deux bouteilles d'eau minérale qu'il fourra dans les larges poches de son manteau. Des hommes et des femmes lui adressèrent la parole au travers du brouillard. Il ne comprit pas ce qu'ils lui voulaient. Les sons lui parvenaient étouffés, presque inaudibles. Il se demanda si ses tympans avaient subi d'irréparables dommages dans le choc contre le mur, ou si, conformément à sa décision, son organisme avait conçu une façon radicale de se fermer au supplice. Il marcha dans un état second un temps qu'il aurait été incapable d'évaluer. Alice et les enfants occupaient ses pensées. Si le feu de Dieu avait tenu le coup, ils étaient désormais seuls face à Jim le parasite, seuls face à un type sans scrupules qui, comme la femelle coucou dans le nid d'une bergeronnette ou d'une fauvette, tirerait tous les bénéfices du travail d'autrui. Jim aurait certainement des vues sur Alice, et comme elle ne croirait pas au retour de son mari, elle se donnerait à lui, si ce n'était déjà fait, même sans l'aimer. Elle n'était jamais restée seule dans sa vie, passant du cocon familial à son premier amour, un garçon ultra-sensible et dépressif avec qui elle avait vécu 6 ans, puis de son premier amour à Frank. Une rage froide le poussait à avancer. En parcourant 30 km par jour, un grand maximum dans un environnement aussi chamboulé, il lui faudrait entre 16 et 20 jours pour atteindre le feu de Dieu. 20 jours, largement le temps pour Jim de s'installer dans la place et de régner sur la cellule familiale reconstituée. Le pont et les bretelles qui enjambaient le périphérique à la porte d'Orléans s'étaient écroulés sur les voitures piégées par le trafic. Il trouva un passage un peu plus loin sur la droite. La chute d'une tour, comblant en partie le périphérique, constituait une passerelle de fortune qu'il traversa en veillant à ne pas se couper aux éclats tranchants de verre et d'acier. Les rafales d'un vent de plus en plus froid lui giflaient le visage. Il avait l'impression de s'enfoncer dans un brouillard persistant et givrant. De l'autre côté du périphérique, le même spectacle de désolation, les mêmes collines de décombres ensevelies sous les nues poussiéreuses et prises d'assaut par les incendies. Il tenta de repérer la Nationale 20, qu'il lui suffirait de suivre le plus longtemps possible pour être certain de marcher dans la bonne direction. Il longea une voie de chemin de fer profondément encaissée entre ses quais de béton. Plus loin, un train de banlieue gisait sur le flanc. Par la vitre brisée du premier wagon, il entrevit le corps d'une femme allongée contre les pieds d'un siège. Il la croyait morte jusqu'à ce qu'il discerne un mouvement dans l'obscurité. Il continua son chemin, puis, ferré par sa mauvaise conscience, revint sur ses pas et, s'allongeant en partie sur le flanc métallique, se pencha sur la vitre brisée. Le faisceau d'une veilleuse encore allumée éclairait la femme qui respirait toujours. Elle leva un bras et lui fit signe d'approcher. Il hésita une dizaine de secondes avant de se glisser par l'ouverture et de se rapprocher d'elle en s'aidant des barres métalliques. Quand il l'eut rejointe, elle murmura quelques mots d'une voix faible qui, comme la flamme mourante d'une bougie, semblait sur le point de s'éteindre à la moindre brise. Son foulard islamique dévoilait en partie une chevelure exubérante, teinte au henné. Elle souleva de quelques centimètres une ample robe noire brodée d'argent. Franks fut surpris de découvrir dans les plis du tissu le visage d'une fillette de 5 ou 6 ans, bien vivante, elle, à en croire la vivacité de son regard noir.
Emmène-la avec toi.
La femme avait puisé dans ses dernières forces pour prononcer ces quelques mots d'une voix audible. Son accent révélait, tout comme sa tenue et les tatouages au henné sur l'intérieur de ses mains, des origines nord-africaines. Elle agrippa fermement le bras de Franks.
Promets. Promets.
Il n'avait pas l'intention de s'encombrer d'une fillette dans le long et dangereux périple qui l'attendait. Elle le dévorait des yeux. Jolie. Très jolie, avec son visage rond, ses cheveux noirs et ondulés.
Promets.
Répéta la femme. Il eut l'impression que la mort en personne lui agrippait le bras. Il tenta de se dégager, mais la femme ne le lâchait pas. De guerre lasse, il pensa s'en débarrasser d'un hochement de tête.
« Je veux ta parole. Ta parole. »
« D'accord, je vous le promets. » La femme lui adressa un regard intense, poignant, qui le bouleversa. Puis elle rendit son dernier souffle et sa tête, en se renversant, heurta le pied métallique du siège. La fillette ne poussa pas un cri. Franks contempla quelques secondes le visage de la morte. Il devait tenir la promesse qu'elle lui avait arrachée, ou il se le reprocherait jusqu'à la fin de ses jours. Il résolut de s'occuper de la fillette jusqu'à ce qu'il lui trouve une famille d'accueil. Elle ne lui opposa aucune résistance lorsqu'il la saisit par les aisselles et la tira vers lui, pestant contre lui-même. Il n'avait pas réussi à se fermer à la compassion. Un reste de conditionnement judéo-chrétien sans doute. Une fois sorti du train, il reposa la fillette sur le quai et s'accroupit en face d'elle. « Comment tu t'appelles ?» Elle ne répondit pas, se contentant de le dévisager, avec la même intensité que sa mère quelques secondes plus tôt.